Charles Flore Square, fiançailles. Irène a 30 ans. Elle est restée fille. Un mystérieux regret lui a vidé l'âme. Peut-être la rancœur d'une espérance offensée. Sa lèvre est amère, ses yeux sont moqueurs. Elle rit d'un rire nerveux, brusquement coupé par l'appréhension d'un sanglot. Des revenants la hantent, de tristes revenants drapés de deuil. Elle semble parfois vivre au milieu d'une nécropole. Rien n'existe plus pour elle, de vivant, plus rien qui soit de l'avenir, pour rien qui soit demain. Elle attend avec sérénité la fin de tout cela, se sentant veuve de quelqu'un qui n'est pas. Mort, martyr d'un serment que nul ne lui a demandé et qu'elle a prononcé devant personne. Elle a aimé. Les douleurs qui tuent les petits sentiments éternisent la grande passion. Et le cœur de la femme est ainsi fait qu'elle ne garde une trace que de ce qui lui laisse une cicatrice. De là, une tristesse morne, toujours plus lourde, car c'est surtout pour les femmes que les années pèsent, d'autant plus qu'elles sont vides. Aucune colère contre la vie, aucune jalousie des bonheurs d'autrui. Les êtres que l'adversité rend méchants étaient méchants de l'origine. Leur perversité guérit une occasion. Irène est bonne, et très bonne, et elle reste bonne à travers les épreuves. Elle pleure souvent, mais les pleurs des autres doublent son chagrin. Comme toutes les créatures qui souffrent d'inconsolables regrets, elle sait l'art divin des consolations. À ceux qui doutent, elle parle d'espoir. Elle qui n'espère plus, et pour distraire un ennui étranger, pour donner des ailes aux oiseaux noirs perchés sur ses fronts, des amis, elle trouve des gaietés nerveuses, bruyantes, macabres, où râle une immense incrédulité. Son visage est moins un visage qu'un masque. Sa parole est moins le vêtement que le déguisement de pensée. Son sourire est un décor sans lumière. Et dans la contemplation de ce sphinx railleur, on songe à ces rideaux de théâtre décorés d'arlequinades et qui tombent raides et joyeux sur le dénouement d'une tragédie. Elle adore sa mère, maman, avec l'ambition de mourir la première. Deux amis, Marie et Marguerite, savent seuls le prix de ses larmes et la mesure de son renoncement. Le goût du monde lui donne un moyen de se fuir et lui prend la tentation furtive de se travestir pour ne pas se reconnaître. Elle vit ainsi des plats et des émotions, des impressions, des espérances des autres, dans une attente soumise. Le mot qu'elle dit le plus souvent, c'est « Oh, je suis navré !» Pierre, 30 ans, sur lesquels 10 ans inutiles, le vide des choses lui pèse. Il a défendu la liberté et on l'a mis en prison. Il a fait la guerre, il a vu que c'était la boucherie. Il a cherché des héros, il n'a trouvé que des hommes. Là, du terrestre, un peu écœuré, un peu endolori, il s'est réfugié dans l'immatériel. Il aime les idées, pas beaucoup, quelques-uns, l'art, la patrie, le rythme, le sacrifice. Pour cela, on dit de lui, c'est un rêveur. Le malheureux, rivé à plat ventre, se défiait matériellement des individus bizarres qui donnent des leçons et des rendez-vous dans la voie lactée et entretiennent des relations suivies avec les étoiles. Fréquenter les astres, cela est suspect. Et ce qui complète Pierre, c'est qu'il est un tantinet démagogue. Infamie qu'il partage avec Hugo, Garibaldi, Bakounine, Zorilla et Kossoun. Le bricot qu'il a construit des barricades. Et comme il est l'adversaire de la peine de mort, on le qualifie parfois de buveur de sang. Il parle des martyrs avec respect. Au fond, la politique ne l'émeut guère. Il croit encore à toute la République, mais plus à tous ses républicains. Et pour se consoler, il cherche des rimes et fond sa joie sur la perfection d'une strophe. Il a voyagé et la terre lui a paru petite. Quoi, déjà le bout du monde? Eh oui, il a vu les forêts vierges, les pays bleus, noirs, jaunes, roses, les grands fleuves, les îles de verdure jetées sur l'océan comme des bouquets effeuillés, les sommets infranchis, et il est redevenu triste, ne retrouvant personne au logis. Pierre aussi porte un masque de frivolité factice qu'il promène dans le souci renouvelé des jours. Il y a la fausseté résignée d'Irène et le même plaisir cruel. Pourtant, il n'endure pas comme elle le regret d'une espérance évanouie. Les femmes qu'il a rencontrées étaient de celles qui s'oublient, qu'on oublie. Aucune n'a survécu à sa propre présence. Elles ont passé avec un froufrou de robe de soie, vite ou lentement, mais d'un pas si léger qu'aucune trace n'en demeure. D'abord, il a regretté ses envolées furtives, jaloux de retenir une de ses créatures, la meilleure ou la pire, pourvu qu'elle restât. C'est si profondément navrant vivre seul qu'on arrive à comprendre les vieilles filles entouré de chats et d'oiseaux. Tout ce qui vit peuple. La lie de l'abandon, c'est d'être entouré seulement de choses. Quand on est aimé de personne, on aime tout le monde, d'une affection banale qui se résume en sympathie aveugle. On accepte quelques préférés, choisis et rares, et l'on répand sur les autres la petite monnaie de son cœur. C'est se ruiner sans enrichir personne. Bon. Dès lors, on est bientôt classé. Les passants haussent les épaules et votre poignée de main devient sans valeur. On vit en dédaigné parmi les indifférents et l'on demande de petites revanches à l'ironie. Pierre vit ainsi, isolé, se demandant chaque jour si ça ne finira pas bientôt, savourant les joies, les émotions, les espérances des autres en attendant. Le mot qu'il dit le plus souvent, c'est « à quoi bon ?» Et la 30e année venue, ces deux êtres, pareillement frappés pour des causes différentes, se sont rencontrés au hasard de la grande route, alors où ils allaient vers la vieillesse, comme au devant d'un vainqueur inévitable, dont on espère des conditions meilleures. Est-ce qu'après les mariages d'amour, d'affaires, de raison, de convenance, le mariage de résignation, d'assurance mutuelle contre les abandons, furtifs, ne sera pas destiné à réparer autant qu'il se peut l'abîme creusé par les désillusions d'antan. Est-ce qu'Irène et Pierre, ayant fait l'un le tour des calvaires et l'autre le tour du monde, ne sont pas mieux armés contre l'ennui et le fardeau de la vie à deux que les petites pensionnaires et les jeunes sous-préfets dans la bousculade des unions bâclées? Est-ce qu'il ne serait pas plus temps pour eux de se créer une bonne existence, bien égoïste, bien étroite? Le temps aura préparé les fiançailles. La pitié annoncerait la tendresse, et l'on se marierait pour consoler réciproquement, ou même pour pleurer ensemble. Avoir quelqu'un avec qui l'on pleure, c'est déjà pas vivre seul.